C'est la première conférence du cycle 2 ce soir de votre parcours. Donc je vous souhaite une bonne rentrée dans ce cycle qui est particulier par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent, puisque ça consiste à regarder les religions sous l'angle des sciences humaines et non pas, comme on l'a fait jusqu'à présent, plutôt par les contenus de foi, de rythme, les rencontres avec les clercs, etc. Donc là, on bascule un petit peu dans autre chose et on se regarde ce que les religions disent de l'homme, de ses évolutions, qu'est-ce qu'elles ont influencé, par quoi elles ont été influencées également, c'est aussi une question pertinente, bien sûr. Est-ce que cette matière elle-même évolue? Comment elle évolue? Je mets des guillemets à évolue. Donc nous rentrons pleinement dans ce cycle avec un petit sujet pour commencer, histoire de commencer, autant aller sur des trucs quand même progressifs. On traite de la violence ce soir. Voilà, qui est un sujet. Bonsoir Christian, bienvenue. Et pour le traiter, ce sujet, j'ai l'honneur de vous présenter Bernard Perret, à qui je voudrais souhaiter la très bienvenue à l'Institut, puisque c'est votre première intervention chez nous.
Oui.
Donc c'est un moment historique que nous vivons. Hein.
Carrément.
Voilà. Et en effet, suite à concertation avec Benoît Chantre ce week-end, qui est notre référent à l'Institut pour tout ce qui est ce sujet, il est apparu bien plus opportun que vous assuriez cette conférence, puisque Benoît certifie que vous êtes bien plus compétent que lui sur ces domaines. Donc doublement bienvenue. Monsieur Perret, vous êtes polytechnicien avec un parcours dans la haute fonction publique, à l'INSEE notamment, des postes au cabinet ministériel, dernière en date au ministère de l'écologie, je crois.
Oui, oui.
Je n'évoque pas tout, hein, mais c'est un grand trait. Et à côté de ce parcours dans la haute fonction publique et dans les ministères en particulier, vous êtes chercheur en sciences humaines, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici ce soir. Vous êtes particulièrement investi dans l'association dite de recherche mimétique, l'association de recherche mimétique. Vous pourrez redire peut-être en deux mots quel est l'objet de cette association. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier qui est sorti en mai,
oui.
Donc, qui s'intitule « Penser le christianisme après René Girard ». Donc on va un petit peu parler de René Girard ce soir. Et on va être un tout petit peu dans ce sujet, puisqu'il s'approche fortement de notre sujet à nous, hein, qui, sans être une conférence sur René Girard, propose d'intégrer son apport à cette question que j'évoquais en introduction, donc la question de la violence des religions, en particulier dans le cadre du judéo-christianisme. Donc que peuvent nous dire les grands textes sur l'homme, son fonctionnement, son organisation sociale, en particulier sur la question de la violence? Monsieur Bernard Perret, vous avez une heure donc pour parler selon votre guise, puis après 30 minutes d'échange avec les auditeurs et les auditrices. Je précise que Jean-Marie doit nous quitter malheureusement sur les coups de 20h, je crois. Voilà. Et pour le reste, je crois que tout est clair pour ce soir.
Merci. Alors, l'association Recherche Mimétique, en deux mots, donc, je le redis, elle a été créée il y a environ 5 ans par Benoît Chantre. J'en suis le vice-président. Se fixe, son objet est d'organiser des colloques, des manifestations, des débats pour confronter la pensée de René Girard avec, par exemple, avec Lévinas, avec Derrida, avec Bourdieu, enfin avec différentes grandes figures de la philosophie et des sciences humaines. Et de financer des publications. Et puis, dernièrement, on a mis sur pied, avec l'Institut catholique, un ciné-club qui s'appelle la Caméra du philosophe, qui fonctionne tous les mois à l'Institut catholique de Paris, et avec donc un choix de films qui permet de rebondir sur les idées de Girard. Voilà. Alors, je commence parce que j'ai pas mal de choses à dire. J'espère que je vais tenir le timing.
Ça me permet de vous rappeler un quart d'heure, 10 minutes avant la fin, peut-être.
Oui, oui, d'accord. Ça, voilà. Alors, j'ai une montre, hein, mais bon.
Bienvenue, Domiti. Tu arrives pile pour le début de la conférence de Monsieur Perret,
radical. C'est un pouvoir radical des Gilets jaunes. C'est...
Elle est désignée porte-parole des Gilets jaunes. Avec ce gilet.
Orange.
C'est là.
Alors, la théorie anthropologique élaborée par René Girard, ce qu'on appelle la théorie mimétique, apporte un éclairage puissant sur les rapports entre la violence, le sacré et l'origine des cultures humaines. Son actualité réside en ceci, qu'elle oblige à prendre conscience du rôle du sacré, ou plus précisément de la logique sacrificielle, dans la constitution des sociétés, et qu'elle mette au défi les croyants de toutes les religions, mais aussi les incroyants, de fonder leur être ensemble sur une base réellement et radicalement non violente. Par-delà son intérêt purement intellectuel et spirituel aussi, je vais essayer de montrer qu'elle ouvre la voie à une démystification radicale de la violence, et par là même qu'elle peut être d'une grande utilité pour affronter les nouvelles formes de violence collective auxquelles nous sommes et auxquelles nous allons être de plus en plus confrontés. Alors, je dois malgré tout préciser d'emblée que, malgré l'importance du thème de la violence dans son œuvre, Girard n'a jamais prétendu faire une théorie générale de la violence. Et par exemple, il ne fait pas une science qui traite des aspects biologiques de l'agressivité, par exemple. La violence ne l'intéresse qu'en tant que phénomène social à caractère mimétique. Je le cite. Par le terme « violence », je désigne non pas un comportement agressif, mais un phénomène inhérent à certaines dynamiques sociales, représailles, vengeance, volonté de rendre œil pour œil, dent pour dent, etc. Donc, pour comprendre ce que Girard nous dit de la violence, il faut donc le réinscrire donc dans l'ensemble de son système de pensée, en commençant par le début, c'est-à-dire sa conception du désir mimétique. C'est d'un travail sur la littérature, d'une étude comparée de quelques grands romanciers européens, Cervantes, Stendhal, Flaubert, Dostoïevski et Proust, qu'est née la théorie du désir mimétique, formulée pour la première fois dans « Mensonges romantiques et vérités romanesques », le premier grand livre de Girard, en 1961. Alors, première observation, Girard se distingue de la plupart des grands théoriciens des sciences de l'homme par le fait d'avoir considéré la littérature comme un outil d'exploration, non pas seulement de la subjectivité d'individus particuliers, mais de la structure fondamentale de l'intersubjectivité et donc du substrat psychologique du fonctionnement des sociétés humaines. La thèse principale de Mensonges romantiques et vérités romanesques n'est en effet pas vraiment une thèse de littérature, mais plutôt une thèse anthropologique. La thèse est que les grands romanciers partagent une même compréhension du désir humain comme désir dépendant du désir d'un autre. Alors Aristote, déjà, avait compris l'importance de ce fait anthropologique qu'est la propension de l'homme à l'imitation. Citation d'Aristote, « L'homme diffère des autres animaux en ce qu'il est plus apte à l'imitation ». Et puis, au XIXe siècle, il y a eu un autre grand théoricien, Gabriel Tarde, qui a développé également une théorie sociale de l'imitation qui montrait l'importance des phénomènes d'imitation dans la compréhension des comportements humains. Alors, une autre découverte pour notre compréhension de l'homme, une autre découverte fondamentale, bien sûr, bien plus tardive, c'est celle de Freud, qui découvre la place du désir au cœur des processus psychiques. Et le concept girardien de désir mimétique, donc, combine ces deux idées. On peut résumer ce concept par la formule « L'homme désire toujours selon le désir de l'autre ». Le désir humain diffère donc radicalement des besoins et des pulsions animales, même si ceux-ci font partie du substrat du désir et font partie de la nature humaine. Il y a dans l'homme une intensité particulière du désir, ce qu'on appelle la passion, en réalité, qui est liée à son caractère mimétique. Une fois leurs besoins naturels assouvis, les hommes désirent intensément, mais ils ne savent pas exactement quoi, car aucun instinct ne les guide. ils n'ont pas de désir propre. Le propre du désir est de ne pas être propre. Donc il y a une hypothèse anthropologique de Girard sur le côté indéterminé du désir humain, donc une capacité à désirer qui excède le domaine des besoins beaucoup plus que ça ne peut être le cas pour les animaux. Alors, ensuite, pour Girard, la structure fondamentale du désir humain est triangulaire. Il met toujours en jeu un sujet, un objet et un modèle ou médiateur. Et c'est ce caractère relationnel qui donne au désir sa coloration, son intensité proprement humaine. L'appétit pour la nourriture, le sexe, n'est pas encore le désir, c'est une affaire biologique qui devient désir par l'imitation d'un modèle. Girard prend l'exemple trivial d'enfants qui se disputent un même objet pour illustrer le fait que le désir mimétique ne réside pas dans une relation définie entre un sujet et un objet particulier, mais dans l'imitation d'un autre désir. Et c'est la convergence des désirs qui constitue l'objet réel ou imaginaire du désir. Alors, Girard parle de mimésis et non pas d'imitation, parce que le mot imitation, dans le sens commun, renvoie à la volonté consciente d'imiter, de faire comme l'autre. Alors que la mimésis girardienne est en réalité une interaction qui affecte le niveau le plus profond de la personnalité, c'est-à-dire celui du désir, et qui présente un caractère d'automaticité. C'est en fait davantage une induction qu'une imitation, dans la mesure où le désir, sous sa forme spécifiquement humaine, présente d'emblée une dimension mimétique. Alors pour trouver un prédécesseur à Girard dans cette manière de comprendre le désir, il faut en réalité remonter à Hegel, qui le premier avait compris que la non-autonomie de la conscience de soi implique une non-autonomie du désir, même lorsque celui-ci porte sur un objet que l'on a devant soi. Alors Freud, par la suite, a placé le désir au centre de sa compréhension de l'être humain, mais Girard lui reprochait d'être revenu en deçà de Hegel à une conception objectale du désir, abusivement rabattue sur le désir d'un objet sexuel. Or, pour Girard, le désir, et notamment le désir d'un enfant pour sa mère, le fameux concept, complexe d'Œdipe, est d'emblée pris dans une relation triangulaire et d'emblée relationnelle, même lorsqu'il semble porter sur un objet. À l'évidence, bien sûr, on va objecter à cela que tout désir comporte un élément objectal, lequel interagit de manière variable avec sa composante mimétique. Pour cela, on peut prendre l'exemple simple des comportements alimentaires. La faim est une réalité physiologique, mais nous mangeons presque toujours plus ou plus rarement moins que ce qu'exige le bon fonctionnement de notre organisme, sous l'effet d'affect et d'incitation de nature essentiellement mimétique. Si à la fin d'un repas excessivement copieux, le maître de maison propose du fromage contre toute nécessité, il suffit souvent que l'un des convives souhaite goûter telle ou telle merveille du terroir pour que les autres suivent. À l'opposé, l'anorexie illustre la capacité du désir mimétique d'inhiber la perception d'un besoin physiologique. Il est important de noter que les interactions entre... Notez un point que Girard ne souligne peut-être pas suffisamment dans certains de ses écrits, mais que Jean-Michel Hougourlian, le psychiatre qui a beaucoup travaillé avec lui, a bien conceptualisé, c'est que les interactions entre les composantes objectales et mimétiques du désir ont lieu dans la durée. C'est-à-dire qu'un désir mimétique frustré crée un sentiment de manque qui finit par s'ancrer durablement dans les pulsions au point d'apparaître subjectivement comme un besoin impératif et objectif. Ce qui peut se manifester, par exemple, par un désir obsédant de revanche sur quelqu'un qui parfois n'est même plus là. La mémoire et l'imagination sont les deux principales facultés mises en jeu dans ce processus qui aboutit à l'inscription rémanente dans la personnalité d'une certaine structure du désir. C'est notamment le cas pour le désir sexuel, dont Girard, voulant se distinguer de Freud, a sans doute sous-estimé le rôle très particulier. Le psychiatre Jean-Michel Gourlian, disciple de Girard, propose d'appeler « moi du désir » ce « moi » créé par le désir mimétique, doté d'une certaine stabilité par le fait qu'il est engrammé dans notre mémoire, ce qui n'empêche pas qu'il soit toujours susceptible d'être remodelé par la dynamique de nos relations avec autrui. Je vais prendre un exemple très personnel pour couper un peu cet exposé et donner une illustration. J'ai découvert, je fais de la montagne l'été, je suis un alpiniste amateur, mais assez acharné, et j'ai une espèce d'obsession qui est de gravir le plus possible de sommets de plus de 3000 mètres dans ma vie. J'ai fait la liste et toutes les années je coche, j'aimerais bien en avoir fait 100 un jour. Et j'ai, en réfléchissant sur Girard, j'ai fini par découvrir que, étant gamin, mes frères étaient allés dans une colonie de vacances où chaque année on faisait un sommet de 3000 mètres et ils avaient trouvé ça formidable. Tu verras, 30 000, on met les lunettes de soleil, il y a de la neige, c'est formidable. Et l'année où j'y suis allé, il faisait mauvais, on n'a pas pu y aller. Et j'ai eu une frustration absolument incroyable. Et j'ai mis des années avant de pouvoir faire un 3000. Et ça m'est resté comme une espèce d'obsession. Il n'y a rien à faire. Bon, je prends cet exemple pour illustrer ce que ça veut dire un désir mimétique qui s'ancre dans la personnalité et qui est perçu comme un besoin absolument objectif, qui fait partie de ma personnalité, alors qu'en réalité, il est le signe d'une dépendance à l'égard d'autrui.
Mais est-ce qu'on le fait partager à son conjoint ?
Ah, bonne question. C'est une très bonne question. Oui. Alors, le cœur de la théorie mimétique est le rapport entre le désir mimétique et la violence. Pour résumer, le désir mimétique engendre la rivalité, elle-même source principale de la violence. Alors, il faut toutefois préciser que l'imitation, enfin la mimésis, ne conduit pas seulement à la violence, c'est-à-dire que la capacité à imiter et la propension à intérioriser le désir d'autrui sont aussi ce qui permet à l'être humain d'apprendre et reproduire des modèles de comportement adaptés à la vie en société. Alors, toute cette question du désir mimétique et de son lien entre théorie girardienne et puis théorie de l'empathie a bien été éclairée bien après que Girard ait fait sa découverte par les neurologues italiens qui ont découvert les neurones miroirs et donc qui constituent en quelque sorte un substrat neurologique au fait que quand nous accomplissons certaines actions, nous ne regardons pas seulement comment les autres font, mais les neurones qui s'activent dans notre cerveau sont en quelque sorte en résonance avec les neurones de la personne que nous imitons. Donc quand on parle d'empathie et de mise en résonance du désir avec le désir d'autrui, c'est quelque chose qui a véritablement un substrat neurologique. Alors, l'admiration est une forme généralement très positive d'imitation. Il n'en demeure pas moins que les modèles, ces personnes qui orientent et structurent le désir, sont toujours susceptibles de devenir des obstacles ou des rivaux. Et ce, d'autant plus que, comme c'est le cas dans les sociétés modernes, qui sont de plus en plus des sociétés qui se pensent comme des sociétés égalitaires, les modèles sont des individus réels qui se situent au même niveau d'existence sociale que le sujet du désir. C'est-à-dire que tous les gens dont nous sommes portés à imiter les désirs sont des personnes que nous ne considérons pas a priori comme supérieures à nous et que donc nous sommes portés à les considérer plutôt comme des rivaux que comme des personnes à admirer. Qui plus est, la rivalité stimule le désir mimétique, c'est-à-dire qu'on rentre dans des espèces de cercles vicieux en quelque sorte, d'où un emballement toujours possible qui débouche souvent sur la violence. Alors, quand la violence mimétique s'exacerbe au sein d'un groupe, elle met en jeu la stabilité de ce groupe et en fin de compte sa survie. Ça, c'est l'hypothèse girardienne, c'est l'hypothèse de Girard sur le processus d'hominisation. Donc Girard, dans son premier livre, donc, il découvre cette théorie mimétique et il l'applique à la littérature. Et l'étape suivante, donc dans La violence et le sacré, il s'intéresse à l'ethnologie, aux mythes, aux cultures archaïques, etc. Et il arrive à cette hypothèse que le désir mimétique et les phénomènes de rivalité qui l'entraîne ont constitué une menace vitale, un obstacle qu'il a fallu surmonter pour que les sociétés humaines se développent, acquièrent une certaine taille et inventent la culture et inventent la division du travail. Donc, sa thèse, c'est que les premiers groupes humains sont sortis de l'animalité sous l'effet d'une intensification du mimétisme, c'est-à-dire la taille du cerveau, les neurones miroirs, etc., et qu'ils ont été de ce fait confrontés à des dynamiques d'autodestruction sans disposer du rempart constitué dans nos sociétés par l'institution judiciaire. Et Girard souligne à maintes reprises ce point tout à fait fondamental. Il dit « Il nous est extrêmement difficile de comprendre l'ampleur du problème que doivent affronter des communautés dépourvues d'institutions judiciaires. » Et les réponses qui ont été données à cette question n'ont pas été d'abord des réponses judiciaires, des réponses institutionnelles, mais des réponses à travers le sacré. C'est ça l'hypothèse girardienne, c'est ça, c'est que le sacré a été une réponse pré-institutionnelle, en quelque sorte, à la question de la violence essentielle qui menace les groupes humains. Donc pour Girard, l'invention du sacré, qui ne fait qu'un avec le processus d'hominisation, résulte de la sacralisation de phénomènes cathartiques d'expulsion de la violence au détriment d'une victime émissaire unanimement rejetée ou mise à mort par le groupe. Alors on a une image... traduction cinématographique de ce là dans la première scène de 2001 de l'Odyssée de l'espace, où il y a cette scène où on voit une bande de singes qui se bagarre et puis qui tue l'un des membres du groupe, et puis on voit l'étape de la loi qui descend. Et j'ai jamais su si Kubrick avait lu Girard ou s'il avait inventé ça de son propre chef. Donc par sacralisation, il faut entendre ici que le fait de mettre à part, de donner mentalement un statut particulier à une réalité perçue par l'ensemble des membres du groupe comme différente et porteuse d'une rupture dans le continuum des significations concrètes de la vie ordinaire. Donc c'est ce fait-là qu'on peut appeler. Cette fait d'être confronté à une réalité qui est perçue comme mentalement ouvrant un nouveau champ de signification, c'est ça donc au départ en quoi consiste le phénomène de sacralisation. Et en ce sens donc, le sacré implique évidemment par définition le mystère et la méconnaissance. C'est quelque chose qui ouvre à une certaine forme de compréhension, mais qui en tant que tel évidemment ne peut pas être compris, qui est constitutif en quelque sorte d'une certaine forme de méconnaissance. La culture humaine est ainsi dès l'origine une entreprise d'endiguement de la violence. Non pas toutefois un apprivoisement conscient fondé sur le contrôle rationnel des passions, mais plutôt un pacte obscur passé avec le désir meurtrier et fondé sur sa méconnaissance. Et à travers l'interprétation d'un grand nombre de mythes et de rituels archaïques, mais aussi la relecture des tragédies grecques et des grands textes de la littérature mondiale, Girard montre à la fois l'universalité de ce mécanisme élémentaire et l'extrême diversité des formes culturelles qu'il produit. Alors, dans la violence et le sacré, en 1972, Girard montre que les rites sacrificiels sont des sortes de mimes, des tentatives de reproduction stylisées et solennisées d'événements sanglants ayant permis au groupe de faire l'expérience mystérieusement gratifiante de l'unanimité. L'essence du sacrifice, pour Girard, réside dans le remplacement des victimes émissaires par des victimes rituelles, des êtres humains, puis des animaux, mis à mort dans le but de reproduire le mécanisme de polarisation des sentiments au sein du groupe. Quant aux mythes, ce sont les traces mémorielles de tels événements, résultat de longs processus de remaniement visant plus ou moins consciemment à en recouvrir le caractère sanglant et à justifier et rationaliser la violence brute. L'un des thèmes les plus importants de Girard est celui de la méconnaissance. Les histoires que se racontent les hommes, les symboles et les institutions, tout l'édifice de la culture humaine, sont liés à un fondement meurtrier dont il conserve la trace et la logique, tout en occultant sa brutale réalité. Les institutions sont toujours, de quelque façon, les héritières du sacrifice, et ce n'est pas pour rien qu'on leur reconnaît spontanément un caractère sacré, comme l'illustre parfaitement l'exemple de la justice. Alors pour Girard, donc, il existe une continuité fondamentale entre le processus fondateur de la culture humaine et les processus sociaux de stigmatisation, d'exclusion et de persécution que l'on peut observer dans toutes les cultures et sous toutes les latitudes et que désigne dans le langage courant l'expression « bouc émissaire ». L'une des affirmations les plus audacieuses de Girard est qu'il existe une parenté fondamentale entre les mythes d'origine, ces récits de héros qui meurent ou disparaissent dans des circonstances étranges avant d'être plus ou moins divinisés, et les récits de persécution racontés du point de vue des persécuteurs, tels que, par exemple, celui que l'on peut lire sous la plume du poète médiéval Guillaume de Machaut, pour qui le massacre des Juifs pendant la peste noire était totalement justifié. Pour rendre plausible cette continuité assez peu vraisemblable au premier regard, Girard s'est notamment appuyé sur un texte étonnant et terrifiant tiré de la biographie du magicien et thaumaturge Apollonius de Tyanes, qui vivait au IIe siècle après Jésus-Christ, donc récit rapporté par l'écrivain grec Philostrate, donc il a écrit une biographie d'Apollonius de Tyanes. Et ce récit, c'est le récit du meurtre collectif d'un mendiant pour mettre fin à une épidémie de peste à Éphèse, à l'instigation du gourou Apollonius. On y voit une foule initialement pacifique se laisser convaincre par Apollonius que ce pauvre innocent était un ennemi des dieux qui devait être lapidé pour le salut de tous. Donc, je cite Philostrate cité par Girard, « Les Éphésiens se scandalisaient à l'idée de tuer un inconnu manifestement misérable qui les priait et les suppliait d'avoir pitié de lui. Revenant à la charge, Apollonius poussait les Éphésiens à se jeter sur lui, à l'empêcher de s'éloigner. Dès que certains d'entre eux suivirent ce conseil et se mirent à jeter des pierres au mendiant, lui, que ses yeux clignotants faisaient paraître aveugle, leur jeta soudain un regard perçant et montra des yeux pleins de feu. » Ce qui rend ce texte extraordinairement illustratif pour Girard, c'est qu'il donne à voir presque en temps réel la transfiguration mythologique de la victime. Et pour Girard, cette transfiguration constitue l'essence même du processus de création des mythes. Donc, l'histoire se poursuit, le récit se termine, de Philostrate se termine ainsi. Une fois la lapidation a lieu, et une fois qu'ils eurent dégagé la créature sur laquelle ils avaient lancé leur projectile, ils constatèrent que ce n'était pas le mendiant. À sa place, il y avait une bête qui ressemblait à un molosse, mais aussi grosse que le plus gros des lions. Elle était là sous leurs yeux, réduite par leurs pierres, réduite à l'état de bouillie et vomissant de l'écume à la façon des chiens enragés. Et la dernière phrase, c'est « En raison de quoi on dressa la statue du dieu protecteur Héraclès à l'endroit même où le mauvais esprit avait été expulsé ?» Donc on a les éléments qui, pour Girard, assurent la continuité entre les mythes et les récits de persécution, c'est-à-dire une situation de grand désordre collectif qui est ici marquée par la peste, mais pour Girard, la peste est souvent ce qui symbolise aussi le désordre, la panique générale, etc. Et un individu qui se détache du groupe parce qu'il a des caractéristiques particulières, et c'est un candidat à l'exclusion en quelque sorte. Ça peut être un étranger, ça peut être un boiteux, ça peut être toutes sortes de... Et Girard a identifié dans les mythes les critères de persécution, en quelque sorte, qui transparaissent souvent dans les mythes. Un épisode dramatique qui se termine mal pour cet individu est, au bout du compte, une fondation ou une refondation religieuse. Au passage, on remarque dans ce récit l'importance de la première pierre, le plus difficile apparemment dans la thérapie collective mise en œuvre par Apollonius, c'est de convaincre quelqu'un de jeter la première pierre. Et bien entendu, pour Girard, cela fait immédiatement écho à l'épisode de la femme adultère dans l'évangile de Saint Jean et à cette fameuse parole de Jésus que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors, j'en viens à la manière dont Girard a lu les écritures judéo-chrétiennes. Alors, en première analyse, les écritures judéo-chrétiennes ne se distinguent pas de l'ensemble du corpus religieux de l'humanité. C'est un fait que ses détracteurs ne manquent jamais de souligner. La Bible est un livre plein de violence. Comme l'observe le théologien Raymond Schwager, qui fut l'un des premiers disciples de Girard dans le monde catholique, dans les textes vétérotestamentaires, donc de l'Ancien Testament, il y a plus de 600 passages où il est explicitement dit que des peuples, des rois, des individus ont attaqué d'autres individus pour les anéantir et les tuer. Aucune autre activité ou expérience humaine n'est aussi souvent mentionnée, ni le monde du travail et de l'économie, ni la famille, ni la sexualité, ni l'expérience de la nature, ni le savoir. Pour les auteurs bibliques, il semble que l'expérience la plus marquante et la plus grave ait été celle-ci. Les hommes se font la guerre et se tuent les uns les autres. Et cette violence, très souvent, est le fait même de Dieu, dont le premier titre de sainteté est d'avoir fait la guerre aux côtés de son peuple. Depuis le fond des âges, c'est principalement en tant que Dieu de la guerre que Yahvé a laissé sa sainteté se manifester. Schwager note ainsi que dans environ 1000 passages, il est dit que la colère de Yahvé s'enflamme, qu'il punit de mort et de destruction, rend la justice comme un feu dévorant, se venge et menace d'anéantissement. Mais, dans le même temps, et de manière quelque peu contradictoire, la violence est toujours identifiée comme le péché par excellence ou comme l'aboutissement ultime du péché. Par exemple, dans le déluge, dans le récit du déluge, la terre se pervertit au regard de Dieu et se remplit de violence. Alors, dans la perspective girardienne, le texte fondamental sur la violence dans la Bible est le récit du meurtre d'Abel par Caïn dans le livre de la Genèse. Cette histoire, remarquons-le, vient juste après le récit de la chute, qui s'interprète évidemment en termes girardiens comme un texte sur le désir mimétique, puisque c'est par contagion qu'Ève cède aux tentations du serpent, et c'est par contagion mimétique qu'Adam cède à son tour aux injonctions d'Adam. Et puis, au départ, il y a une situation de rivalité où ce qu'arrive à faire le serpent, c'est à faire croire à Ève qu'elle est en rivalité avec Dieu et que Dieu veut la priver en quelque sorte de quelque chose qui a de la valeur. Donc, juste après, l'histoire vient de la violence, vient l'entrée de la violence dans le monde, avec une histoire qui dit très clairement plusieurs choses essentielles et très girardiennes, en quelque sorte, sur la violence. Le meurtre est, depuis l'origine, une donnée fondamentale de la vie humaine. Il est provoqué par la jalousie et la rivalité. Troisièmement, Dieu condamne cet état de fait. Quatrièmement, Caïn, le fondateur de la civilisation, celui qui fonde les villes, est un meurtrier. Cinquièmement, le meurtre entraîne le meurtre dans une spirale sans fin. La différence entre la Bible et d'autres mythes d'origine apparaît ici en toute clarté. Dieu fait savoir qu'il est du côté de la victime et non du constructeur des villes. La cité humaine est ainsi radicalement désacralisée. Girard montre que ce récit s'oppose de manière frappante et presque point par point à celui de la fondation de Rome. Le meurtre de Rémus par Romulus. Ce qu'avait d'ailleurs observé de son côté saint Augustin et que Girard a repris et il a seulement reconnu après que saint Augustin l'avait dit avant lui. Les textes qui vont le plus loin dans le processus de démythologisation de la violence dans la Bible, dans l'Ancien Testament, sont le livre de Job et le chant du serviteur souffrant dans Isaïe, éloge inspiré d'une victime innocente et non violente qui prend sur elle les souffrances de la communauté. Le corpus prophétique, les textes des prophètes, contiennent par ailleurs des dénonciations répétées des sacrifices sanglants, avec l'idée déjà que ce n'est pas cela que Dieu attend des hommes, et avec des allusions très claires au sacrifice des premiers-nés, et à la sortie du sacrifice des premiers-nés. Et l'on ne doit pas oublier, bien sûr, les psaumes, qui sont une part importante de l'Ancien Testament, et dont une large part est en fait une protestation contre la violence. Il n'en demeure pas moins que pour Girard, la Bible hébraïque ne parvient pas à exonérer Dieu de toute forme de violence. On est toujours dans l'équivoque. Cependant, pour Girard, la supériorité de la Bible sur des textes émanant d'autres cultures tient précisément dans le fait que ses auteurs ne cherchent pas à masquer cette contradiction. Le problème de la violence est posé dans toute son ampleur. On trouve dans la Bible les traces d'une préoccupation constante et d'une réflexion approfondie sur ce sujet, même si elle ne débouche pas sur un point de vue unifié et cohérent. On peut ajouter que la Bible est traversée tout entière par une réflexion éthique sur les causes de la violence, dans laquelle on reconnaît sans difficulté les thèmes chers à René Girard, du désir mimétique, de la jalousie et de la rivalité. Comme je viens de le dire, le thème du désir mimétique est au cœur du récit de la chute. Et on pourrait bien sûr parler aussi du décalogue, dont le dernier commandement, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain », porte spécifiquement sur la prohibition de la mimésis acquisitive. Et pour Girard, je le cite, si le décalogue consacre son commandement ultime à interdire les biens du prochain, c'est parce qu'il reconnaît dans ce désir le responsable des violences interdites dans les quatre commandements qui précèdent. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Alors j'en viens au christianisme et à la lecture girardienne des évangiles. Alors, en apparence, les évangiles racontent la même histoire que les mythes d'origine, c'est-à-dire celle d'un meurtre qui sauve, mais le schéma est ici inversé. C'est du point de vue de l'agneau, du point de vue de la victime innocente, que l'histoire est racontée. Le récit de la Passion rassemble les principaux éléments du schème sacrificiel que Girard a identifié dans un grand nombre de mythes d'origine. Une foule instable et en colère, symptôme d'une crise mimétique, et une victime émissaire divinisée. N'est-il pas logique, dès lors, de voir dans le christianisme un nouvel avatar du religieux sacrificiel, voire même, par rapport au légalisme juif, une régression vers l'archaïque et un recul donc par rapport à l'évolution post-sacrificielle de la religion juive, mais aussi on pourrait parler des évolutions post-sacrificielles, des religions asiatiques comme le bouddhisme, etc. La différence, cependant, c'est que dans les évangiles, le mécanisme victimaire est entièrement dévoilé et l'histoire du sacrifice qui sauve racontée du point de vue de la victime innocente. Je cite Girard, « Nulle part, en effet, ce mécanisme n'est plus visible que dans les évangiles, et c'est à ce point que l'évidence trop parfaite bascule dans son contraire. Si le christianisme était une religion comme les autres, cette origine ne serait pas plus visible qu'ailleurs. On pourrait dire « Vous avez mal vu ». Vous manipulez les textes. Ici, c'est impossible. Tout est inscrit noir sur blanc dans quatre textes à la fois. Pour que le fondement violent soit efficace, il faut qu'il reste caché. Ici, il est entièrement révélé. Alors, la force de l'interprétation girardienne des évangiles se marque notamment dans le fait qu'elle permet de rendre compte de la cohérence interne du Nouveau Testament. Il n'y a pas d'un côté la prédication du royaume, les préceptes bien connus de la morale évangélique, et de l'autre, un événement étrange et dramatique dont il est fait mémoire dans le rite eucharistique. Les évangiles montrent que Jésus avait une profonde compréhension des forces dont l'action allait le conduire au supplice et du fait que ces forces émanaient de la même logique maléfique que celle à l'œuvre dans tous les actes de haine, de mépris et d'exclusion. La morale prêchée par Jésus en était l'antidote, le moyen non seulement d'y résister, mais de lui opposer une logique radicalement autre. Plusieurs points sont ici à noter. Tout d'abord, le caractère antimimétique de la morale évangélique. Le dépassement d'une morale fondée sur la stricte réciprocité, par exemple, tendre la joue gauche, aimer ses ennemis, la place du pardon, etc. À une question du disciple Pierre sur le pardon, Jésus répond qu'il faut pardonner 77 fois. Or, le même chiffre se retrouve dans la Genèse pour signifier l'emballement mimétique du cycle de la vengeance après le meurtre d'Abel. Caïn est vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. La révélation de la proximité de Dieu avec les victimes, les pauvres, les exclus, l'amour de Dieu pour les victimes, et ceux qui prennent leur parti, est signifié par la liste des heureux dans le sermon sur la montagne, pauvres de cœur, doux, affligés, affamés, assoiffés de justice, miséricordieux, artisans de paix, persécutés pour la justice, ou encore, de manière encore plus directe, dans la fable du jugement dernier. L'inversion de la logique victimaire est signifiée dans plusieurs paraboles, notamment celle de la brebis égarée et du fils prodigue. On pourrait dire que, au tous contre un du mécanisme victimaire, Jésus oppose le tout pour un, l'amour préférentiel pour l'égaré, même lorsque l'égaré semble responsable de son errance. Enfin, à plusieurs reprises, Jésus fait le lien, surtout dans l'évangile de Saint Jean, entre sa propre mort et l'universalité de la violence humaine. En la plaçant dans la continuité, donc en plaçant sa propre mort dans la continuité des meurtres commis depuis la fondation du monde, notamment dans la parabole des vignerons homicides et dans la diatribe contre les légistes et les pharisiens. On peut ajouter à cela que l'interprétation girardienne donne sens à de nombreux détails du texte ou paroles de Jésus qui, sans cela, serait fort difficile à interpréter. On peut évoquer ici la mention par l'évangile de Luc d'une réconciliation entre Hérode et Pilate. Et ce même jour, Hérode et Pilate devinrent deux amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Et pour Girard, ce détail n'a aucune raison d'être, sinon le fait que ça permet à Luc de souligner la réalité du mécanisme du bouc émissaire, en quelque sorte. Et c'est encore ce même signifié, le rôle de la victime émissaire comme catalyseur d'unité, qui transparaît dans les propos prophétiques à double sens, mis dans la bouche du grand prêtre. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Pour Girard, par ailleurs, c'est tout à fait délibérément, et peut-être bien au-delà de ce qu'a été réellement l'histoire, que les écrivains du Nouveau Testament soulignent l'unanimité qui se fait contre Jésus. Notamment dans cette citation des Actes des Apôtres. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël. Donc on ramasse tout, on veut signifier que, en fin de compte, Jésus était en réalité le bouc émissaire de l'humanité. Pour Girard, ceci tend à prouver que les évangiles avaient compris que le dévoilement du mécanisme victimaire était cela même qui conférait une signification universelle à la mort et, pour eux, à la résurrection de Jésus. Alors, on peut ajouter que Jésus fait preuve dans les évangiles d'une compréhension aiguë des mécanismes de la violence mimétique et il fait preuve d'une capacité à la désamorcer par son comportement qui a frappé les évangélistes, notamment dans l'épisode de la femme adultère. Jésus analyse le comportement de Jésus et observe que ce n'est sans doute pas sans raison qu'il baisse les yeux et qu'il se met à écrire sur le sol. Si Jésus renvoyait leur regard, ces hommes surexcités ne verraient pas son regard à lui tel que réellement il est, et ils le transformeraient en un miroir de leur propre colère. C'est leur propre défi, c'est leur provocation qu'ils diraient dans le regard de Jésus, si paisible soit-il en réalité, et ils se sentiraient provoqués en retour. L'affrontement ne pourrait plus être évité et il entraînerait probablement ce que Jésus s'efforce d'empêcher, la lapidation de la victime et peut-être la sienne propre. Donc Jésus évite donc jusqu'à l'ombre d'une provocation. Donc c'est une interprétation du fameux geste de Jésus qui écrit sur le sol. Une autre citation qui s'éclaire, c'est quand Jésus dit... Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et on peut se demander, qu'y a-t-il donc de critiquable, du point de vue chrétien, dans la manière dont le monde donne la paix? Et évidemment, dans la perspective girardienne, c'est le fait que trop souvent, nous avons besoin d'un tiers exclu, d'une victime, pour créer l'unité d'un groupe. La paix du monde, c'est la paix que l'on fait sur le dos d'un tiers, un pacte sournois conclu avec la violence. Et construire la paix véritable ne peut avoir d'autre sens que de chercher à construire un être ensemble qui puisse se passer d'ennemis ou de souffre-douleurs, ou pour le dire autrement, construire des communautés dont l'unité ne dériverait pas de l'opposition à autrui. Donc pour Girard, la Bible doit être lue comme un vaste geste de communication qui, à l'échelle des millénaires en quelque sorte, et des siècles en tout cas, apporte une révélation progressive sur la violence et sur la manière d'y échapper. La mise au jour d'une violence située en l'homme lui-même s'y fait sans cesse plus précise, et Dieu s'en trouve corrélativement exonéré. La condamnation des sacrifices par les prophètes marquant de ce point de vue un tournant décisif. Et la passion du Christ marque, pour Girard, l'aboutissement et la culmination de ce processus, Dieu lui-même prenant en quelque sorte lui-même la place de la victime innocente pour rendre manifeste le scandale d'un ordre humain fondé sur la violence. Alors, qui plus est, en se plaçant là vraiment d'un point de vue chrétien et d'un point de vue de converti, Girard pousse encore plus loin en disant que le Christ lui-même montre la voie d'une conversion du désir mimétique. Il se présente comme le modèle parfait dont l'imitation permet d'échapper au piège du désir mimétique. Modèle parfait par la force de son message, mais aussi parce qu'il se soumet entièrement il soumet entièrement son désir à la volonté de son père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En d'autres termes, selon le schéma girardien du désir, le Christ se pose en médiateur d'un désir exempt d'envie et de rivalité, parce que subordonné au désir du père, c'est-à-dire du tout autre, qui ne saurait être pour nous un rival. Alors, maintenant j'en viens à peut-être à des choses plus terre à terre, c'est-à-dire qu'est-ce que en dehors de son aspect confessionnel, qu'est-ce que la théorie mimétique a des choses à dire sur les mécanismes de la violence, à la fois ce qui la provoque et ce qui se produit quand elle se déchaîne. Et il y a véritablement dans la théorie mimétique un savoir sur la nature mimétique de la violence qui, à mon avis, est d'une grande importance. On peut objecter, certes, qu'il existe une violence prédatrice qui rapproche l'homme de l'animal, quand des êtres humains volent, pillent et tuent, poussés uniquement par la faim ou le besoin. Mais l'essence de la violence humaine, ce qu'il y a en elle de typiquement humain, relève d'un autre registre. Qu'elle soit l'effet d'une rivalité ou le résultat d'un processus plus ou moins complexe d'expulsion, d'endiguement ou de détournement, la violence conserve un caractère foncièrement mimétique, ce qui veut dire qu'elle est contagieuse, explosive et peu maîtrisable. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut jamais prendre trop au sérieux les raisons qu'elle se donne. La violence n'est jamais simplement un moyen que l'on peut mettre au service d'une fin. C'est une force autonome qui échappe forcément à ceux qui se laissent contaminer par elle. Pour comprendre la dynamique d'un conflit violent ou potentiellement violent, mieux vaut l'appréhender d'emblée comme une situation de rivalité mimétique que de chercher à peser les motivations rationnelles des protagonistes. D'ailleurs, la violence la plus typique est celle qui oppose des frères ennemis, comme le montrent de nombreux exemples historiques. La guerre des États s'est voulue rationnelle, codifiant le recours à la violence par un droit de la guerre, mais cet endiguement n'a jamais résisté à la puissance de la contagion mimétique. Le dernier ouvrage de Girard, achevé Clausewitz, écrit avec Benoît Chantre, montre que le grand théoricien de la guerre moderne avait compris cela. Pour Clausewitz, l'essence de la guerre est le duel, la violence réciproque qui conduit presque nécessairement à la montée aux extrêmes. La guerre de 1914-1918 illustre cette réalité. Les causes initiales du conflit, dont les historiens débattent encore, sont rapidement passées au second plan derrière la haine mutuelle. Les ennemis, devenant indiscernables dans leurs motivations et leurs comportements, agissent par la même furie destructrice. Alors, dans les sociétés dites civilisées, la violence est canalisée et régulée de multiples façons. Outre l'institution judiciaire, on peut évoquer l'inculcation précoce de normes comportementales impliquant un strict contrôle de l'agressivité physique, ou encore l'extension des domaines d'activité sociale permettant l'expression légitime et régulée de la violence, comme l'activité économique ou le sport. Alors ici, moi, petite parenthèse, l'une des choses dont la lecture de Girard m'a rendu vraiment conscient, c'est de la place de la compétition dans la vie des sociétés contemporaines, compétition sur tous les terrains, économiques, sportifs ou politiques, et de plus en plus en termes de notoriété sur les réseaux sociaux. Or, il n'est pas difficile de comprendre que la compétition est la principale forme d'expression non violente de la rivalité dans nos sociétés. Même si, en réalité, la violence physique n'est jamais loin, comme on le voit par exemple quand un processus électoral dérape, ou quand les supporters d'un match de foot en viennent aux mains. Et en fin de compte, on voit la vérité de cette citation de Girard. Les procédés qui permettent aux hommes de modérer leur violence sont tous analogues en ceci qu'aucun d'eux n'est étranger à la violence. Quoi qu'il en soit, et malgré tous les garde-fous inventés au cours des siècles, nous risquons à tout moment d'être dépassés par la force explosive des processus mimétiques. Si la violence est aussi difficile à maîtriser, c'est aussi parce qu'elle produit son propre récit, son propre mensonge, qui contribue à la fois à la masquer et à l'entretenir. C'est l'essence des mythes, mais aussi du discours nationaliste et de toutes les idéologies qui visent à conforter l'unité et l'identité d'un groupe humain, quelle qu'en soit la taille et la nature. Aujourd'hui comme hier, la nature, la manière la plus simple de se définir consiste à désigner un ennemi réel ou imaginaire, ou à stigmatiser une déviance. Girard nous permet de comprendre ce que j'appelle la violence constitutive, c'est-à-dire la logique qui conduit les hommes à voir dans la violence, souvent à leur insu, la voie nécessaire de la fondation de l'identité personnelle et de l'être ensemble. Pour illustrer cette notion, je pourrais prendre l'exemple du terrorisme djihadiste, mais je vais m'appuyer sur un autre exemple historique de violence terroriste, celui à qui, par parenthèse, nous devons le mot même de terrorisme. Je veux parler de la terreur révolutionnaire de 1792, telle que l'analyse le philosophe Claude Lefort dans un texte publié dans les années 1980. Commençons par cette citation de Saint-Just, rapportée par Claude Lefort. « Ce qui constitue la République, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé. » Et plus loin dans le même discours, « Ce n'est guère que par le glaive que la liberté est fondée. » Alors, peu importe ici de savoir dans quelle mesure la violence était réellement inévitable, ce qui retient l'attention de Claude Lefort, c'est le lien perçu comme nécessaire entre la violence et l'entreprise de refondation de la communauté politique. La violence terroriste n'est pas d'abord un moyen au service d'une fin politique déterminée. Elle constitue par elle-même l'élément constitutif du processus politique, car elle donne accès à une nouvelle vision de la société. Je cite encore Lefort. Trancher entre la vertu et le crime, entre le peuple et ses ennemis, n'est pas le moyen de l'institution de la République. Trancher est le moyen de rendre visible, concevable, le social, ou mieux, c'est l'acte générateur de la vision et de la connaissance. Voilà qui nous met très près de la manière dont Girard analyse l'origine du symbolique, le processus de différenciation fondamentale qui s'institue entre un groupe et la victime qui est mise à part et qui est sacralisée. En d'autres termes, j'ai presque fini. La violence, dans ce cas, fait corps avec ce qu'elle veut réaliser, à savoir une division du corps social qui rend pensable, visible et nécessaire un « nous » qui s'oppose à un ennemi réel ou supposé. La visée réelle de la violence constitutive est de se constituer un ennemi en face duquel un « nous », une identité collective, source d'identité personnelle, trouve naturellement sa consistance. Grâce à Girard, nous comprenons mieux que ce mécanisme monstrueux est lié au processus même par lequel l'humanité est sortie de l'animalité. À titre d'illustration, rappelons-nous à quel point les guerres modernes ont été fondatrices pour les nations européennes, rendant possible, entre autres choses, l'institution des mécanismes de solidarité collective. L'histoire est riche, par ailleurs, en épisodes de lynchage et de chasse aux sorcières, solution commode pour permettre à une communauté en crise de retrouver son unité. Il est évident que la montée des périls des partis extrémistes dans une Europe confrontée au chômage et à la stagnation économique relève du même ordre de phénomène. Mais le mal est bien plus étendu et sournois qu'on ne le pense spontanément. Il est pour tout dire d'une redoutable banalité. On pense d'abord au cas de harcèlement dans le travail et en milieu scolaire, dès l'enfance. Mais il y a bien d'autres situations où nous trouvons commode, en toute bonne conscience, de resserrer nos liens et de créer de la convivialité sur le dos de boucs émissaires, de souffre-douleurs qui, pour être souvent physiquement absents, et donc peu susceptibles d'être directement atteints par nos sarcasmes, n'en sont pas moins les victimes. À bien y regarder, la stabilité des groupes et la convivialité dans des groupes auxquels nous participons, la force de leur être ensemble, a souvent pour béquille cachée un individu rituellement moqué ou critiqué, une figure de celui que nous ne sommes pas, qu'il suffise d'évoquer l'expérience banale d'un repas entre amis, qui devient tout de suite plus chaleureux quand on commence à communier dans la détestation ou le mépris de quelqu'un. Le fait est pourtant que dans nos sociétés, la violence ordinaire reste contenue. Les lynchages sont devenus le plus souvent purement verbaux. Sans négliger l'effet des garde-fous évoqués plus haut, Girard observe que nous sommes devenus plus conscients et jusqu'à un certain point prévenus contre les processus de victimisation, pour une bonne part sans doute, comme l'affirme Girard, grâce à l'influence du christianisme. Nous savons d'instinct qu'il n'est pas permis de faire d'un bouc émissaire une véritable victime. Derrière chaque victime de la violence, nous voyons en effet, en filigrane, la figure du crucifié, même si nous n'en avons pas conscience. Nietzsche ne s'y était pas trompé, lui qui dénonçait la pitié comme l'une des conséquences néfastes du christianisme. La place prise par les victimes dans l'espace public reflète une délégitimation de la violence. Mais cette délégitimation ne nous rend pas encore capables d'inventer des modes d'être ensemble qui ne reposent pas sur l'exclusion et donc sur une forme de violence. S'il est vrai que, comme le montre Girard, c'est à travers l'expérience apaisante de l'unanimité meurtrière que les hommes ont appris à faire société, il n'y a pas à s'étonner que la violence nous colle ainsi à la peau. Dans une France laïque, les monuments aux morts ont parfois tenu lieu de sanctuaires. Pendant la guerre de 1914-1918, ce n'est pas pour rien que l'on a parlé d'union sacrée et que la route utilisée par les renforts se rendant à la bataille de Verdun a été nommée la voie sacrée. On peut y voir une permanence du sacré le plus archaïque au sein des sociétés qui se croient modernes dès lors qu'elles sont confrontées à la violence extrême. Mais il faudrait bien sûr parler aussi de l'ambiguïté persistante du sens du sacrifice au sein même des religions, y compris du christianisme, des souffrances inutiles que l'on impose aux autres et aussi à soi-même en croyant plaire à Dieu. Or, la répudiation de la violence et de tout ce qui y conduit est au cœur du message chrétien. En prendre conscience oblige à s'interroger sur ce qui reste de violence sacrificielle dans toutes les conceptions de la vie religieuse et donc aussi de violence dans toutes les images de Dieu. Merci.